l'émission Panthère Rouge jusqu'à 19h que l'on peut également écouter sur le blog de l'émission audioblog.arteradio.com/Panthère Rouge. On continue avec Lise qui interview Johan sur la map d'EDA.
Oui, alors on vient de voir que la conférence de Copenhague a été un échec. Pourtant, on ne peut se satisfaire de ces changements climatiques et individuellement, on a envie d'agir. On s'est demandé si une manière d'agir ne pouvait pas être de monter et faire fonctionner une AMAP. Donc une AMAP, une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Alors si parmi les motivations à monter une AMAP, on retient surtout le désir d'avoir une alimentation saine, il y en a aussi plein d'autres, comme le désir de proximité des produits, de transparence des modes de production, et puis aussi il y a l'aspect auto-organisation et peut-être aussi le refus d'être un pion dans un système complètement opaque et complexe qui fait que l'on fait ce qu'on nous dit, qu'on mange ce qu'on nous donne sans se poser de questions. Et également peut-être aussi la volonté de dire que l'on peut faire autrement. Alors donc aujourd'hui on a appelé Johan de la map d'EDA, cher à map. Bonjour Johan.
Bonjour.
Ça fonctionne. Alors donc première question, quelles ont été les motivations chez toi et chez les autres amapiens d'EDA?
Ah, je crois qu'il y a eu un superbe résumé qui vient d'être fait sur les différentes motivations qui peuvent pousser à créer une AMAP. En l'occurrence, sur le territoire d'EDA, c'est l'initiative d'une association locale de sensibilisation à l'environnement qui s'appelle Aquavert, qui avait organisé une conférence débat il y a maintenant 2 ans au sujet de l'alimentation, santé, environnement, et qui avait invité l'ensemble de la population à venir débattre sur ce sujet-là. On avait accueilli un certain nombre d'agriculteurs et le débat avait tourné pas mal sur la problématique locale qui parle du lac d'EDA qui est en train de se trophiser de manière un peu dramatique,
qui est
à l'origine d'ailleurs de la création de l'association Aquavert. Donc il y avait une idée localement de la protection d'un patrimoine naturel local qui est en danger.
Parce que est-ce que vous pouvez expliquer exactement ce qui se passe dans le lac d'EDA?
Alors, lac d'EDA, il y a une eutrophisation qui est naturelle et une eutrophisation qui est accélérée par notamment les pratiques agricoles en amont du lac, dans la Vère, qui par le déversement de nitrates, viennent combler le lac. Donc, c'est un petit peu les pratiques agricoles qui sont en question. Et cette question-là de la responsabilité des agriculteurs nous a amené automatiquement à la responsabilité des consommateurs. Sur la question, comment est-ce que les agriculteurs peuvent vivre de leur métier et quelle est notre responsabilité par rapport à ça.
D'accord.
Donc c'est l'utilisation de ces nitrates, c'est pas pour le plaisir, c'est aussi notre responsabilité en tant que consommateur. Et donc l'idée c'était de se poser la question comment on pouvait faire en sorte que ce processus-là n'aille pas aussi vite qu'il ne va aujourd'hui.
D'accord. Et donc, votre association, comment est-elle organisée?
Elle s'est créée, en fait, à la suite de cette conférence débat, par un appel aux gens de poursuivre la réflexion sur comment changer nos modes de consommation. Donc, il y a des gens qui se sont inscrits. On s'est retrouvés pendant un an à se réunir, à débattre sur de ce qu'on voulait faire. Ça a débouché à la création d'une AMAP, ce qui n'était pas du tout donné d'avance.
Mm-hmm.
Et on a distribué un questionnaire à l'ensemble des boîtes aux lettres de la commune d'EDA pour connaître un petit peu les souhaits de la population locale par rapport à des modes de consommation et par rapport à la viabilité de la création d'une AMAP sur le territoire. On a eu plus d'une centaine de réponses qui nous ont encouragés à poursuivre. Et dans ces réponses-là, on avait un certain nombre de réponses qui disaient on souhaite des produits de qualité, des produits locaux, des produits avec une certification agriculture biologique. Donc, ce qui a encouragé le groupe de travail à continuer et à créer une association, l'association Cher AMAP, qui a vu le jour maintenant il y a un petit peu plus d'un an. Et ce groupe de travail s'est prolongé sous la forme du conseil d'administration en fait de l'association, qui a mis en place les statuts, la charte, qui s'est inspirée de celle des AMAP. Et qui a créé un certain nombre de commissions pour ouvrir le fonctionnement de l'association à l'ensemble des adhérents. Donc on a une commission animation, une commission producteur, une commission solidarité, une commission communication. Donc l'organisation, en fait, c'est un noyau de 10 personnes, d'une dizaine de personnes qui est le conseil d'administration qui se réunit à peu près une fois par mois. et un certain nombre de commissions qui se réunissent au fur et à mesure que les sujets apparaissent.
Alors en fait, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes une bande de gauchistes. Vous faites des réunions une fois par mois, vous avez fait un an de débat et vous avez des pratiques très militantes. Est-ce que vous êtes particulièrement gauchiste à l'EDA ou est-ce que, comment ça se fait en fait? Est-ce que c'était naturel cette prise de conscience ou...
Alors ce qui est rigolo dans ce groupe de travail, c'est que on s'est retrouvé autour de la table un certain nombre de personnes qui se connaissaient pas, on va dire une 10-15 personnes, de sensibilités complètement différentes, d'âges différents, de milieux socio-professionnels complètement différents. Le seul point commun en fait qu'on avait, c'était d'être venu à cette conférence-là, donc déjà de se poser la question, et puis d'habiter sur le même territoire. Donc après l'idée de ce qui a été très fort dès le début, c'est de se dire on va pas faire un truc entre nous entre gens qui pensent tous la même chose. On a bien distribué un questionnaire à toute la population de la ville, du village et des alentours, pour ouvrir cette démarche-là à tout le monde.
D'accord.
Donc c'est pas du tout connoté politiquement. Évidemment qu'on a des réflexions qui vont recouper un certain nombre de sensibilités politiques. Et qu'on arrive à des conclusions qui sont pas productivistes, qui sont plus basées sur la solidarité, sur le respect de l'environnement. Mais c'est une association qui est complètement apolitique, tout en faisant de la politique dans chacun de ses gestes.
Bah oui, parce que déjà le fait de s'organiser en commission solidarité, etc. Quand même, ça fait penser à une certaine,
je dis un mot de démocratie.
Cette idée,
il n'empêche pas. L'association est quand même très structurée. Il y a un bureau, un président, un conseil d'administration. Il y a ce conseil d'administration qui est élu par l'Assemblée générale. Les réunions du conseil d'administration sont ouvertes à tous les adhérents. C'est, en fait, un des maîtres mots de l'association, c'est la transparence. Que ce soit au sein de l'association, mais que ce soit aussi vis-à-vis des producteurs. C'est-à-dire que les producteurs aussi, dans la charte, ce qui leur est demandé, c'est de la transparence. Parce que ce qui est vraiment souhaité par l'association, c'est que chacun des adhérents s'approprie complètement les produits qu'il ingurgite, quoi. Ce qu'on met dans son corps, c'est quand même pas neutre. Donc l'idée, c'est que chacun ait conscience de tout ce que ça implique de produire une carotte, de faire un steak, de faire un fromage de chèvre, d'avoir conscience de ce que c'est de tout ça. Et donc la transparence, ça vaut aussi bien dans le fonctionnement de la MAP qu'une exigence vis-à-vis des producteurs qui doivent nous ouvrir au moins une fois par an à l'ensemble des adhérents leur exploitation pour qu'on puisse chacun visiter, débattre et échanger autour des pratiques de l'agriculteur et puis du rapport qu'il a avec l'association.
Donc il y a vraiment cet aspect qui est important pour vous de formation, d'éducation, quoi.
Ah ben c'est presque une association d'éducation populaire en réalité. Mmh. C'est, comme je l'ai dit récemment, c'est presque le panier de légumes, c'est presque un prétexte en fait, c'est une façon d'aborder un certain nombre de problématiques qui sont très vastes, l'alimentation, la santé, l'environnement, l'économie locale, par quelque chose qui nous touche tous, c'est manger, quoi. Manger, on est tous là autour à manger, et c'est une porte d'entrée fabuleuse pour se rendre compte de ce que c'est que la paysannerie, de ce que c'est qu'une agriculture respectueuse de l'environnement, de ce que c'est un lien social sur le territoire aussi, parce que c'est une association qui permet énormément de liens sociaux sur le territoire, puisqu'on se retrouve tous les jeudis soirs sur un même lieu, à échanger, à même à confectionner les paniers ensemble. Donc ça va bien au-delà juste de l'acte de manger. Et l'éducation populaire, c'est aussi par les visites de ferme et par un certain nombre d'animations qu'on est en train de mettre en place, qu'on n'a pas encore vraiment mis en place pour le moment parce qu'on a été un petit peu débordé par les côtés purement organisationnels, par la gestion des contrats, notamment avec les producteurs. Mais les animations, ça sera le maître mot de l'année 2010 pour Cher un Map, avec des conférences, des sorties avec des sorties avec des intervenants spécialisés dans les plantes comestibles, par exemple. Des projections de films avec, en partenariat avec d'autres associations, des ateliers cuisine pour partager les savoir-faire, etc. Tout ça pour finalement échanger autour de pratiques alternatives à ce qui peut nous être complètement dispensé par les médias de masse. Mmh.
Bon, alors, je voulais vous demander quels sont vos buts, mais vous en avez déjà dit beaucoup.
Oui.
Donc, l'aspect d'éducation populaire, l'aspect de socialisation,
lien social,
lien
sur le territoire,
voilà.
Et la promotion d'une agriculture paysanne de proximité et respectueuse de l'environnement.
D'accord. Alors, ouais, en fait, je voulais me rendre compte un peu de comment ça fonctionne, combien de paysans on a besoin pour nourrir une population aujourd'hui si on fait de l'agriculture respectueuse de l'environnement et du paysan. Il y a deux siècles à peu près, les rapports étaient inversés, beaucoup de gens étaient à la campagne et il fallait environ deux paysans pour nourrir un citadin. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire, il y a quelques pourcentages, enfin il y a 3, 4, 5, 6% d'agriculteurs, je ne me prononce pas trop en détail, pour nourrir tous les citadins. Et donc, dans une AMAP, comment ça fonctionne? Combien de producteurs avez-vous et pour combien de consommateurs?
Alors, en termes d'adhérents, on est entre... on est juste au seuil de réadhésion pour la nouvelle année, puisqu'on recommence au mois d'avril. On s'est un peu calé sur les saisons du maraîchage. On était 120 adhérents l'année dernière. Aujourd'hui, on est à 70 nouvelles adhésions. On a à peu près 60 personnes qui contractualisent.
Ça veut dire que vous êtes combien en tout? Ça veut dire que vous êtes presque 200 ou vous êtes...
Non, on était 120 l'année dernière. Aujourd'hui, il y en a 60 qui réadhèrent. Donc, on va dire qu'on est à peu près...
Une centaine, quoi.
On pense qu'on est à peu près une quatre-vingtaine de foyers sur la commune et alentour.
D'accord.
Deux, trois communes qui sont autour. Donc, il faut savoir qu'à Eda, il y a 2000 habitants. Donc, on représente, on va dire, une dizaine de pourcents de la population, à peu près.
Ouais.
Et des producteurs, on a aujourd'hui contractualisé avec 7 producteurs. Donc
D'accord.
On a 7 producteurs différents, de productions différentes, qui sont partenaires de l'association, plus certains producteurs qui sont invités ponctuellement, comme des viticulteurs notamment, qui viennent une fois par an pour faire déguster leurs produits et puis parler un petit peu de leur production et puis... Et puis nous vendre de leurs bouteilles.
D'accord.
Voilà, donc après, répondre à la question de combien de consommateurs il faut pour un producteur et inversement, c'est très difficile à répondre comme ça, dans la mesure où ça va être très variable en fonction de la production. Par exemple, le paysan boulanger qui nous fournit en pain nous a expliqué qu'il était déjà en limite de charge avec Cher AMAP pour notre AMAP, hein, pour un soir, une journée. Il avait d'autres AMAP à côté. Le producteur de viande ovine et bovine, lui, il a 5 AMAP. Il en a besoin d'au moins 5 pour pouvoir vivre. Le maraîcher, lui, a diversifié les voies d'écoulement de ses produits. Il fait des marchés, il fait de la vente directe de panier par livraison. Et il a l'association qui est venue... se greffer sur son organisation préalable il y a maintenant un an et demi.
Et comment vous fonctionnez vous fonctionnez toute l'année ou parce que tout à l'heure vous avez évoqué une coupure?
Oui, on fonctionne toute l'année.
Ouais.
Je ne sais pas à quel moment j'ai évoqué.
Donc, peut-être qu'on adhère pour un an en fait, j'ai pas bien compris en fait.
Oui, si, on adhère pour un an, mais on s'est calé on fait d'avril à avril en fait.
D'accord.
Puisqu'on s'est calé sur la saison du maraîcher, on considère qu'il y a une saison été qui fait septembre-octobre, et une autre hiver qui fait octobre-mars.
Bon, et alors, d'après les syndicats d'agriculteurs, notamment la FNSEA, les AMAP ne sont là que pour une partie de la population. En gros, il n'y a que les bobos qui mangent bio, et seront toujours incapables de satisfaire tout le monde. Ils disent que l'autosuffisance en bio est impossible. Et donc, à votre avis, quelles sont les limites de la généralisation des AMAP?
Faut déjà regarder un premier chiffre, c'est que des AMAP, il n'y en avait pas tant que ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Je me souviens, il y a 5 ans, en Auvergne, il devait y en avoir peut-être dans l'Allier, dans le Puy-de-Dôme, il devait y en avoir deux. Aujourd'hui, je pense qu'il doit y en avoir au moins une quinzaine. Alors, en moins de 5 ans, donc ça fleurit. Et aujourd'hui, les AMAP se plaignent plus d'avoir trop, de pas savoir comment gérer le surplus d'adhérents que le contraire. Donc on n'en est pas encore à se dire à rechercher des consommateurs, quoi.
Mais vous pensez que c'est qu'on a une bobification de la population?
Alors c'est une des difficultés, c'est une des questions que se posent toutes les AMAP, à laquelle ont trouvé une réponse les AMAP de Vic-le-Comte et la AMAP de Clermont-Saint-Jacques, qui ont mis en place un système de péréquation sur, on va dire, une déclaration de revenus de chaque foyer. C'est-à-dire quand on adhère à la MAP, on déclare ses revenus sur une échelle de 1 à 5. C'est du déclaratif, hein, il n'y a pas besoin de fournir sa déclaration, son avis d'imposition. Et en fonction de cette classe, hein, de 1 à 5, les consommateurs s'organisent pour que ceux qui ont le plus gros revenu payent 10% plus cher, 20% plus cher, 10% plus cher. Donc c'est 10 et 5, enfin je sais plus exactement l'actualité dans ces AMAP là, mais pour que ceux qui ont des revenus inférieurs puissent bénéficier, on va dire, d'une réduction des prix de 10 à 20%, voire 30%, je crois avoir entendu parler. Et ce système-là s'équilibre très bien. Après, les pourcentages peuvent être ajustés en fonction des tranches de revenus de la population.
Mais bon,
ce qui a permis à un certain nombre de personnes avec des faibles ressources d'accéder à ces produits de qualité et de soutenir activement cette agriculture paysanne et de proximité.
Oui, donc si on veut, on peut permettre à tout le monde.
Alors, à la MAP DEDA, c'est pas encore mis en place parce que on a une commission solidarité justement qui réfléchit à comment mettre en place un système de solidarité entre les consommateurs. La difficulté que ça pose, c'est énormément de travail pour gérer tout ce système de péréquation, parce que c'est en fait, en réalité, c'est la MAP qui gère tout ça. Pour les producteurs, c'est complètement transparent. Lui, quand il amène un panier à 10 euros, c'est 10 euros. C'est les consommateurs entre eux qui s'arrangent. Donc c'est énormément de travail, et aujourd'hui, la MAP DEDA n'a pas trouvé de solution encore à cette question-là. Et invite l'ensemble de ses adhérents à venir participer à la commission solidarité pour ouvrir l'aspect solidaire entre les consommateurs. Aujourd'hui, ce qui a été mis en place, c'est la possibilité de régler en plusieurs fois, parce que la solidarité au sein de l'association, c'est aussi vis-à-vis des producteurs. Et donc, quand on fait un contrat pour 6 mois, c'est un règlement, dans la mesure du possible, des 6 mois de livraison qui vont venir, donc par chèque, ou en 2 fois, ou en 6 fois, etc. Enfin, on a la possibilité de régler en autant de fois qu'on veut, en fonction de ses possibilités. Et on s'aperçoit que quand même la majeure partie des adhérents jouent le jeu et règlent dès le départ toute la saison, ce qui permet aux producteurs, et on a eu un très beau témoignage des producteurs lors de notre dernier AG il y a quelques jours de ça, où les producteurs ont dit c'est un vrai bol d'air de pouvoir enfin se dégager un salaire sur les mois d'hiver. C'est le témoignage du maraîcher de dire c'est chouette, j'ai pas dû attendre le mois de juillet pour me verser un salaire, et ça c'est grâce à cet aspect solidaire de verser l'argent en avance, quoi.
Et donc vous versez de l'argent aux producteurs en fonction de la production, ou en fait typiquement un maraîcher il peut pas prévoir s'il aura une bonne récolte ou pas? Comment vous gérez cet aspect?
Effectivement, et dans la mesure où il y a aucun producteur qui ne fonctionne que avec les AMAP, on n'a pas mis en place de système qui soit strictement conforme à la charte initiale des AMAP, qui est de définir le prix des produits en fonction de l'ensemble de la production. Les prix aujourd'hui sont fixés en partenariat entre l'association et le producteur, davantage sur des prix, on va dire, de marché que sur des prix de revient réel. Parce que aujourd'hui on ne sait pas le calculer de manière raisonnable sans entrer dans des détails qui sont extrêmement lourds, tout en étant extrêmement intéressant. Mais
la MAP n'a qu'un an, en fait. Vous pouvez encore affiner votre fonctionnement.
Tout à fait. On est tout jeune encore. On s'est beaucoup structuré sur les contrats. On a vraiment insisté sur le fait de faire des contrats de manière à ce que les producteurs aient une visibilité par rapport à leur production. Et ça aussi, On a une éleveuse de volailles qui nous a bien expliqué qu'elle était ravie de ce fonctionnement-là, parce que sur les 6 mois où elle nous donne un calendrier prévisionnel en disant bah, « je pourrais avoir des pintades pour le mois de mai, des poulets pour le mois de juin, etc. » Et les consommateurs, 6 mois à l'avance, disent bah, « moi je veux un poulet pour le mois de mai, 3 pintades pour le mois de juin, etc. » Et donc elle peut organiser toutes ses productions, et c'est une facilitation considérable pour elle de son travail.
Bon, alors j'aimerais poser une dernière question. En fait, je reviens un peu sur ma question précédente. La généralisation des AMAP, en fait. Pour vous, quelle est la limite, en fait, à la généralisation des AMAP? Qu'est-ce qu'il faut changer pour généraliser les AMAP? Ou est-ce que c'est pas possible?
Aujourd'hui, la grosse difficulté qu'on rencontre, et on l'a eue sur la map d'EDA, c'est les terres, hein. C'est l'installation d'agriculteurs, le maintien de cette agriculture paysanne. Ben c'est d'ailleurs l'objet des AMAP. Hein. AMAP, ça veut bien dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Aujourd'hui, on est un peu dispersé, et donc on n'a pas la possibilité d'établir un rapport de force avec l'industrie agroalimentaire, avec les politiques, pour encourager l'installation d'agriculteurs ou d'agriculture paysan, j'entends, et de maintenir cette agriculture paysanne. Donc aujourd'hui, c'est ce qui fait défaut, la limite, c'est l'organisation d'un rapport de force entre la grosse machine et puis toutes ces petites actions locales qui sont dispersées. Alors il faut quand même savoir qu'il y a dans les régions des alliances, c'est pas le cas en Auvergne, hein, mais dans d'autres régions il y a des alliances, l'Alliance Provence, l'Alliance...
Des alliances pour acheter des terres.
Pardon ?
Des alliances pour acheter des terres pour.
Non, ce sont des alliances en fait qui sont des. Alors je connais pas exactement le statut, mais qui sont des sortes de fédérations d'AMAP.
Ouais.
Et qui peuvent de ce fait-là établir davantage de rapports de force avec les institutions locales. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui s'appelle le MIRAMAP, le mouvement interrégional des AMAP, qui est en pleine constitution. Hein, c'est tout jeune, ça fait. La première réunion a lieu en décembre, à laquelle a participé Cher AMAP. Et l'idée, c'est de fédérer un petit peu toutes ces AMAP pour partager nos problématiques, nos buts, et rétablir un véritable rapport de force pour pouvoir installer des agriculteurs et encourager le maintien de ces agriculteurs sur leurs terres pour des productions paysannes, pour que les producteurs puissent avoir un prix rémunérateur de leur activité. Et pas simplement dépendre de subventions et et vendre leurs produits à perte.
Bon, Johan, merci. En fait, l'heure tourne. Merci beaucoup de votre témoignage. Ça nous a donné envie, en tout cas à moi, d'organiser ce genre de choses autour de chez moi aussi. J'espère que c'est la même chose pour nos auditeurs. Et puis voilà, bonne continuation. À bientôt.
Mais on se retrouve.
Merci, à bientôt.
Merci. Au revoir. On se retrouve après une pause musicale.